L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
Bonsoir à vous tous, auditeurs de Rencontre Lusophone, l'émission qui vous parle du Portugal. Nous sommes le samedi 8 septembre et nous émettons à partir des studios de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, comme tous les samedis, nous sommes trois dans l'équipe. Jeff à la technique, Manu et moi-même, Hélène en studio. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance, je fais de la radio avec deux garçons polyvalents et interchangeables. C'est très pratique, alors du coup, un coup j'ai Jeff avec moi dans le studio, et d'autres fois j'ai Manu, et ce soir c'est Manu qui prend le micro avec moi. Salut Manu.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui, ça va.
Aujourd'hui tu es là avec moi.
Oui.
Oui, et aujourd'hui on a préparé quelque chose, un récit d'histoire pour nos auditeurs.
Oui.
Ouais, tu peux nous en dire un petit peu, hein, une petite
approche. Oui, c'est l'histoire de Pedro Inés.
Inés, la reine morte.
La reine morte.
C'est une histoire très croustillante, hein, et qui finit,
oui,
qui
assez,
finit pas très bien.
Assez sanglante,
il faut avouer. Assez sanglante.
Bonsoir chers auditeurs, qui maintenant avaient pris l'habitude d'écouter Rencontre Lusophone.
Donc maintenant, on y va, et le mot magique c'est...
Bora.
Bora.
Résonance, 96.9.
Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Cette semaine, pour mon billet d'humeur, j'avais le choix de m'exprimer au moins autour de trois sujets. Le premier et sûrement le plus grave, c'est l'incendie qui a ravagé le musée de Rio au Brésil et qui a vu partir en fumée 90% des œuvres du musée. Des œuvres d'une valeur inestimable qui faisaient partie de notre patrimoine culturel mondial à tous, à nous tous. Imaginez-vous que le squelette de Luzia, le plus vieil homo sapiens d'Amérique du Sud, datant de plus de 11 000 ans, est parti en cendres avec les 20 millions d'autres œuvres. Là, ça fait froid dans le dos. Et le plus révoltant, c'est que cette effroyable catastrophe a été le fruit d'une négligence absolue, parce que, comme ce qui est arrivé dans bien d'autres pays, le capitalisme a pris le pas sur la culture et la science, qui ont souffert de sévères coupes budgétaires. C'est carrément honteux et, il faut le dire, dégueulasse. L'autre sujet qui, cette semaine, a attiré mon attention est la nouvelle réforme de l'orthographe proposée par nos voisins belges qui semblent tiquer depuis des années sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors évidemment, j'ose espérer que les autres pays francophones n'accepteront pas cette proposition et qu'ils y feront barrage. Sinon, encore une fois, nous aurons la vilaine impression qu'on cherche toujours à niveler la culture par le bas. Et ça, ce n'est pas possible. Mais dans cette histoire, en fait, la seule chose qui m'a bien fait sourire, c'est ce journaliste français qui a eu l'idée géniale d'écrire en exemple une certaine phrase pour montrer à nos voisins belges que l'accord du participe passé, ce n'est pas si compliqué que ça. La phrase géniale, la voici. Il a dit « La Coupe du Monde que vous avez perdu. Alors j'ai envie de croire que pour sauver notre langue, on ne perdra jamais le « e » à « perdu ». Et puis, en pensant à la requête des Belges, je n'ai pu m'empêcher de penser à la réforme des Portugais demandée par les Brésiliens et entrée en vigueur en 2015. Une réforme qui a voulu simplifier le portugais en retirant de l'orthographe toutes les lettres et les accents inutiles. Une belle connerie, je trouve. Et un véritable danger pour la langue portugaise qui a ainsi perdu le sens de certains mots. En voici un exemple flagrant. Autrefois, avant la réforme, j'aurais pu dire... O cagado está de facto na praia, ce qui veut dire « la tortue est en fait sur la plage ». Aujourd'hui, si j'applique la réforme, je retire le « c » du mot « facto » ainsi que l'accent tonique du mot « a » de « cagado », ce qui donne la phrase « o cagado está de facto na praia » et qui se traduit en français par « la merde est en maillot de bain sur la plage » au lieu de « la tortue est en fait sur la plage ». Vous avez vu ? Rien à voir. Mais la nouvelle qui a égoïstement retenu mon attention cette semaine et qui ne m'a pas laissé de marbre, c'est la fermeture de la pastellerie suisse à Lisbonne. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, il était depuis un siècle l'un des hauts lieux de la Baixa. et c'est lui aussi qui un jour a introduit le croissant français au Portugal. Alors évidemment, cette nouvelle m'a rendu triste parce que comme de nombreux Portugais, j'y ai très souvent traîné mes guêtres. Pour moi, c'était un véritable crève-cœur de voir qu'une croix a été tirée sur la pachelerie suisse.
Jeu de mots.
Jeu de mots. Alors, lorsqu'il y a quelques années, la menace de fermeture est tombée, tous les Portugais, et moi y compris, on a eu l'impression que sa candidature au programme municipal Boutiques historiques de Lisbonne permettrait de rendre l'endroit intouchable. Eh ben non. La pâtisserie suisse a bel et bien fermé, vendredi dernier d'ailleurs. Parce qu'elle était achetée par des fonds étrangers, et plus précisément par des fonds espagnols, dont Rafael Nadal, le fameux joueur de tennis, est l'un des nombreux investisseurs. Investisseurs qui d'ailleurs ne se sont pas limités à la seule acquisition de la pâtisserie suisse. Non, ils ont acheté tout le pâté de maison. Misère de misère, encore des Espagnols. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors comme un dernier chant du cygne, un groupe d'amoureux de la pâtisserie suisse, je le prononce correctement, a envoyé une lettre à Nadal pour lui demander de sauver l'établissement. En ajoutant que, bien sûr, la Baixa Pombalina a besoin d'être réhabilitée, mais qu'elle ne doit pas être l'être en dépit du bon sens. Malheureusement, je ne sais pas quelle a été la réponse de Nadal, et peu importe d'ailleurs. Mais maintenant que j'ai un peu pleuré pour la fermeture de ce grand établissement lisboète, j'ai envie d'être un peu plus pragmatique. Et je suis bien obligée de me rendre à l'évidence que dernièrement, l'établissement avait quand même perdu un peu de son aura d'autrefois. Les prix, le service et le décor, ces dernières années, tout cela laissait un peu à désirer. Alors certes, lorsqu'un endroit chargé d'histoire ferme ses portes, on a vite fait d'accuser les touristes qui font grimper les prix ou les affreux capitalismes de l'immobilier. Mais là, je pense très sincèrement que comme dans de nombreux endroits qui ont dernièrement fermé à Lisbonne, la pâtisserie suisse n'a pas su prendre le bon virage. Avec la tête enfouie dans le sable, son propriétaire a sûrement préféré oublier les règles basiques du marketing, en pensant que pour faire face à la concurrence, il suffirait d'augmenter les prix sans rien changer ailleurs. Eh ben non, c'est là que le bât a blessé. Pour prendre le virage de la concurrence, il faut quelquefois concéder à apporter quelques changements à son commerce sans pour autant perdre l'ADN qui en a fait ce qu'il est devenu. Il faut aussi s'adapter au rythme de vie d'aujourd'hui, sans oublier les goûts des clients qui, eux aussi, ont évolué. Alors, vivre du passé, oui, mais vivre dans le passé, non.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
En France ou ailleurs, connaît-on vraiment la reine morte? Vous savez, cette femme qui fut reine après sa mort. Et si vous, vous posiez la question, auriez-vous la réponse? Eh bien, je pense que, comme la plupart des gens, vous penserez immédiatement à l'opéra. Celui de Monterland, écrit en 1942 et qui raconte une tragédie sentimentale. Un peu comme celle de Roméo et Juliette.
Mais par contre, si vous avez des origines lusophones et si je vous parle de reine morte, il y a de fortes chances pour que vous pensiez tout de suite à un pan de l'histoire du Portugal, pas très glorieux, il faut bien se l'avouer.
Le récit que nous allons vous raconter se passe au XIVe siècle, période brutale et sans pitié, où on tuait sans aucun remords. Et bien souvent, malheureusement, pour des raisons d'État. Mais contrairement à l'histoire de Roméo et Juliette, cette issue, celle de la reine morte, fut bien plus cruelle. Car là, ce n'était pas de la fiction.
Nous voici donc dans le récit tragique de la reine morte. Mais commençons par le début. Nous sommes aux alentours de 1420, dont Pedro est l'infant du Portugal, fils aîné du roi Dom Afonso IV, dit le Brave, un surnom que le roi a acquis grâce au courage dont il a fait preuve sur les champs de bataille.
Son fils, le jeune prince, quant à lui, aime la chasse et a, depuis sa plus tendre enfance, appris à manier les armes. C'est un excellent parti qui a maintenant l'âge de contracter un beau mariage pour le bien de sa patrie, le Portugal.
Le roi Dom Afonso IV veut donc pour son fils un mariage de raison et d'intérêt, et pour cela il envisage de s'allier avec la Castille, le pays voisin de plus en plus puissant.
Et très malin, le roi du Portugal se dit qu'ainsi, en s'alliant avec son potentiel ennemi, il dispensera son pays des possibles et répétées attaques venues d'Espagne.
Et quoi de mieux donc que d'unir son fils Dom Pedro avec la fille d'un des plus grands nobles de Castille, ancien tuteur du roi d'Espagne, Alphonse XI. Cette possible union porte déjà un nom.
Doña Constanza Manuel. À 20 ans, Dom Pedro se retrouve donc marié à une Castillane de 19 ans. Mais comme souvent dans les mariages arrangés, il s'aperçoit très rapidement qu'il n'a aucune attirance pour Constance.
Par contre, le jeune prince tombe un beau jour sous l'emprise d'une des suivantes de son épouse, une jolie blonde aux yeux verts qui s'appelle Dona Inés de Castro, une castillane elle aussi, et fille d'un grand seigneur galicien, Don Pedro Fernández de Castro.
Au début, la liaison entre Pedro et Inès est discrète. Mais vous imaginez bien que garder un secret d'alcôve dans une cour, c'est mission quasi impossible.
Et le temps aidant, leur amour n'est plus un secret, car de la cour du Portugal à celle de Castille, tout le monde est au courant de leur idylle.
En apprenant les amours cachées de son fils, le roi Dom Afonso est vert de rage. Comment son fils peut-il se permettre de compromettre la belle alliance qu'il a bâtie entre les deux pays?
Et que va devenir son rêve? Celui de désirer secrètement l'union du Portugal avec la Castille pour n'en faire qu'un et seul et même état.
Certainement un rêve utopique qui a très peu de chances d'aboutir. Car de l'autre côté, en Castille, le roi Alphonse XI rêve lui aussi d'unir les deux pays, mais d'une façon beaucoup plus belliqueuse. «
Petite parenthèse historique pour vous dire qu'entre les deux pays, il y a eu comme ça d'incessantes querelles de succession avec des mariages entre le Portugal et la Castille qui n'avaient de cesse de vouloir absorber son pays voisin.
Mais le 14 août 1385, une bataille met fin à cette querelle. C'est la bataille d'Aljubarrota qui voit la victoire des Portugais et qui assure ainsi l'indépendance du Portugal, du moins pour un temps.
Mais ça, c'est une toute autre histoire dont on vous parlera un autre jour.
Notre histoire nous raconte l'union cachée qui cesse rapidement d'être secrète, puisque la reine Constance, s'apercevant de la tromperie de son mari, réussit à évincer sa rivale, Inès, en l'expédiant loin de la cour, à Albuquerque, une ville près de Badajoz, tout près de la frontière espagnole.
Une tentative qui ne rencontre évidemment aucun succès, puisque c'est Dom Pedro qui, du coup, s'éloigne de la cour pendant des jours entiers pour aller rejoindre sa belle à Albuquerque.
Tentative qui, en plus, ne fait que renforcer l'idylle entre les deux amants.
Mais souvent dans la vie, des événements surgissent et changent le cours de l'histoire. Et là, devinez quoi ?
Dona Constance meurt en mettant au monde Fernando, le futur roi du Portugal.
Et à partir de là, l'histoire s'accélère.
Don Pedro n'accepte aucune autre proposition de mariage de la part de son père, prétextant, petit malin, qu'il a besoin de temps pour faire son deuil.
Au grand désespoir de son père Afonso, qui n'est pas dupe et qui se doute bien que son fils continue sa liaison amoureuse avec Inès.
La suite de l'histoire finit par donner gain de cause à Don Pedro, qui s'installe avec sa maîtresse dans le palais de Santa Clara, sur les bords du Mondego à Coimbra.
Et un beau jour, en secret, Don Pedro épouse Inès.
De leur union naîtront quatre enfants, dont un mourra en bas âge.
Pendant quelque temps, aucun nuage ne vient assombrir leur petit bonheur, du moins, ainsi le pense-t-il.
Car la cour de Don Alphonse IV, on commence vraiment à s'énerver.
En effet, les conseillers du roi, très hostiles à une union avec la Castille, voient d'un très mauvais œil toute cette histoire.
Ils s'aperçoivent en effet que les frères d'Inès commencent à s'immiscer petit à petit dans les affaires de l'État portugais.
Alors on commence à s'imaginer qu'un jour ou l'autre, il finira bien par y avoir beaucoup trop de Castillans à la cour du Portugal.
Et le récit part convaincre Dom Afonso que la vie de l'héritier du trône portugais, l'infante Dom Fernando, née de l'union de Dom Pedro et Dona Constance, pourrait bien être en danger.
Ces fous veulent faire mourir cet enfant et le remplacer par le fils d'Inès, votre majesté.
Le roi n'en peut plus et sa haine contre Inès et ses frères grandit.
Alors, à la cour du Portugal, on se retrouve avec trois clans.
Le premier clan, celui des hommes qui n'aiment pas Inès, car elle est castillane.
Le second, celui des femmes qui n'aiment pas Inès, car elle est bâtarde. Et franchement, penser qu'un jour, lorsqu'elle sera reine, il faudra lui présenter ses hommages, ah, sûrement pas.
Et le troisième clan, celui de l'Église, qui n'aime pas Inès, car ignorant que le couple s'est marié en secret, croit qu'ils vivent encore dans le péché.
Bref, vous avez compris que la tension à la cour du Portugal est à son comble.
Mais l'histoire prend quelquefois des tournants incompréhensibles.
Et le vieux roi, Don Fernando, commence à se prendre d'une affection paternelle envers Inès.
Et se surprend à voyager assez souvent vers Coimbra pour aller voir ses petits-enfants.
Mais pourquoi ce vieux roi tombe-t-il ainsi soudain sous le charme de cette belle Inès ?
Eh bien parce qu'il a enfin compris que la jeune femme, issue d'une des plus grandes familles de Castille, est en fait dotée d'un caractère noble. Elle est belle, sincère et élégante, et n'est pas habitée par ce désir de trahison et vengeance que certaines mauvaises langues veulent bien lui accorder à la cour du Portugal.
D'autre part, le roi Afonso garde un très mauvais souvenir des infidélités de son propre père Dom Dinige, parce qu'en dépit d'être le fils légitime et l'héritier de la couronne du Portugal, dans son enfance, Dom Afonso n'était pas le favori du roi Dinige. Non, celui-ci avait une nette préférence pour Dom Afonso Sanches, l'un des bâtards légitimés de la cour portugaise.
Une rivalité de succession qui ira même jusqu'à donner lieu à des affrontements armés. Afonso, voulant donc éviter que l'histoire se reproduise, s'est méfié de la belle Inès.
Mais ce climat de confiance finit malgré tout par s'installer entre Afonso et Inès.
Et celui-ci supplie de quitter son fils, Pedro, parce qu'il reste convaincu que malgré tout, un complot se prépare derrière son dos.
Mais rien n'y fait et Inès dit au roi que seule la mort pourra les séparer un jour.
La belle Inès ne croyait pas si bien dire, car le roi est de plus en plus convaincu que cette idylle est un réel danger pour le Portugal.
Et se positionnant en protecteur de son peuple, il se dit qu'il n'a plus le droit d'hésiter à évincer la Castillane du royaume du Portugal.
Après un fervent débat avec ses conseillers, il consent alors au jugement d'Inès.
Alors au matin du 7 janvier 1355, une troupe de chevaliers quitte la cour du Portugal en direction du palais Santa Clara à Coimbra.
Plus tôt dans la matinée, Pedro vient de partir à la chasse avec un groupe d'amis.
Le groupe de cavaliers s'arrête devant la porte du palais et demande à voir Inès. C'était le roi Afonso avec ses conseillers.
Ils entrent alors dans le palais et Inès vient à leur rencontre, surprise mais contente d'avoir la visite du roi.
En s'inclinant, elle demande au roi le but de sa visite. Il ne dit rien, mais un homme s'avance et se place juste devant le roi en tenant un parchemin. Il s'apprête alors à lire ce qui est écrit sur son parchemin. Il s'agit du Meiring Mor, le président du tribunal, dont le rôle est de juger, donner un verdict et condamner. C'est donc lui qui annonce à Inès qu'elle a été jugée et reconnue coupable. La sentence ?
La peine de mort.
Inès a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre, mais très rapidement elle comprend ce qui se joue là et se met à genoux devant le roi qu'elle supplie, en lui demandant de l'épargner et de penser à ses petits-enfants.
Le vieux Afonso détourne la tête, n'osant la regarder dans les yeux. Il sent bien que sa détermination commence à faiblir. Alors n'y tenant plus, il s'enfuit dans le couloir en criant
« Inès est innocente ! Inès est innocente !»
Les conseillers le poursuivent à leur tour dans le palais en criant
« Perdre le Portugal pour une femme ? Trahison ! Le roi nous abandonne !»
Mais le vieux souverain n'a plus qu'un souhait, s'enfuir au plus vite et le plus loin possible.
Il monte alors à cheval et retourne dans son palais à Montemor, laissant la pauvre Inès aux mains des furieux conseillers.
La suite ? Eh bien, je voudrais pouvoir vous dire que Pedro arrivera à temps, qu'il pourfendra ses vils manants, tel un Zorro venant au secours de sa destinée, mais non. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme on voudrait.
Mais que devient alors la pauvre Inès ?
Eh bien, elle fait mine de s'enfuir, mais est vite rattrapée et rouée de coups.
On lui arrache ses vêtements.
Elle se retrouve à moitié nue, mais continue de se défendre bec et ongles.
Malheureusement, les hommes étant plus nombreux, ils finissent par la maîtriser.
Soudain, surgissant de nulle part, un homme qui, immobile, avait observé la scène, s'approche d'Inès.
Il est grand.
Il est encagoulé et tient dans sa main une lourde hache.
C'est le bourreau.
Alors d'un... Alors d'un seul coup net et puissant, il tranche le joli cou d'Inès.
Sa tête roule et une large tache de sang se répand sur le sol.
C'en est fini d'une des plus belles femmes du monde.
Les trois conseillers du roi, le Méling mort et le bourreau, repartent en emportant le corps d'Inès, sans oublier la tête.
Avant de partir, ils donnent l'ordre aux serviteurs de nettoyer le sang de la jeune femme répandue sur le sol.
Ses restes sont alors déposés dans l'église de Santa Clara, près du palais.
Le soir, lorsque Don Pedro revient en fin de la chasse, il pense trouver Inès dans sa chambre, et est donc surpris de ne pas la voir.
Il fait alors le tour du palais en criant son nom et sans s'apercevoir qu'il y a autour de lui des servantes en pleurs.
Lorsqu'il finit par connaître enfin la tragédie qui a frappé sa bien-aimée, il devient fou.
Il est comme frappé de démence et envahi par une haine farouche et obstinée envers le roi, son père, et le peuple portugais qu'il rend responsable de lui avoir volé son amour.
Pendant les semaines et les mois qui suivent la tragédie, Don Pedro voyage à travers le pays avec ses enfants. Il va de village en village et de place forte en place forte pour crier son désarroi.
Il se confond en pleurs et en lamentations. À travers ses larmoiements, il veut prouver à ses enfants que leur mère a été assassinée deux fois. Une première par ce peuple portugais qui ne l'a finalement jamais vénéré et une seconde par la main de ses trois bourreaux.
Une véritable mise en scène à la portugaise.
Sur son passage, il y a à chaque fois un tel rassemblement qu'il réussit à réunir autour de lui une horde composée d'hommes et de femmes hostiles au roi du Portugal.
Ces derniers le suivent.
Et rempli de haine envers son père et son pays, Dom Pedro finit par s'allier aux Castillans, son profond désir étant de faire front à son père.
Le pays est au bord de la guerre civile, et ce qui devait arriver arriva. Le vieux souverain Afonso meurt à Lisbonne en 1357. Dom Pedro devient alors l'héritier légitime de la couronne portugaise et devient roi du Portugal.
Mais son tout premier vœu après le couronnement est de faire extrader les anciens conseillers de son père qui, sentant le vent tourner, s'était déjà enfui vers la Castille, juste après la mort du roi Afonso.
Don Pedro décide alors de négocier avec le roi de Castille. Il lui propose un échange. Quelques conjurés castillans emprisonnés dans des prisons portugaises contre les trois renégats qui ont assassiné Inès.
Le roi de Castille accepte et les trois assassins sont extradés vers le Portugal.
Un beau jour à Santarém, Dom Pedro décide d'organiser un grand festin en l'honneur des trois extradés.
Il invite toute la noblesse portugaise et tous les grands chevaliers au service du royaume.
Pendant le repas, alors que tout le monde est attablé, on vient annoncer à Dom Pedro que les trois prisonniers viennent d'arriver.
Alors, tel un enfant courant pour déballer ses cadeaux de Noël, Dom Pedro descend 4 à 4 les marches du palais pour voir ses jouets vivants qu'il a bien l'intention de briser.
Arrivé sur l'esplanade du palais, où une foule curieuse entoure déjà les prisonniers, Pedro s'aperçoit qu'ils ne sont que deux. Álvaro González et Pedro Coelho.
On lui avait pourtant affirmé qu'ils étaient trois.
Oui, c'est vrai. Ils devaient être trois.
Mais le chef de la garnison lui annonce que le troisième larron, un dénommé Lopes Pacheco, a réussi à s'enfuir en France.
Pedro est alors fou de rage, mais à la vue des deux hommes, il se calme un peu en se disant qu'il a à sa merci au moins deux des trois assassins.
L'image qui va suivre est terrible. Les deux assassins sont attachés par le cou, tel un attelage de bœufs. Ils sont épuisés et recouverts de poussière.
Pedro les frappe et les roue de coups pour savoir si d'autres hommes ont participé à la mort d'Inès.
Mais les deux renégats, Coelho et Gonçalves, restent muets.
N'étonnant plus, Dom Pedro s'empare d'un fouet aux lanières courtes, hérissées de pointes de fer. Il cravache la tête de Coelho et la met en bouillie.
Le visage en sang de l'ancien conseiller de son père se met à insulter le roi en le traitant de lâche et de fils rebelle.
Mais Pedro s'en moque, il se met à rire.
Et il veut encore aller plus loin dans le supplice qu'il est en train d'infliger aux deux conseillers assassins.
Il demande qu'on lui apporte des oignons et du vinaigre pour cuisiner cet ignoble lapin.
Lapin étant la traduction de Coelho, l'un des deux hommes.
À la cour, on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre macabre.
C'est alors que Dom Pedro se calme et après un long et pesant silence, il donne l'ordre à ses soldats d'arracher le cœur des deux hommes, l'un par la poitrine et l'autre par le dos.
Il demande qu'on les lui apporte sur un plateau d'argent.
Sur ces paroles, Pedro tourne les talons et rejoint le banquet pour terminer son repas.
Les soldats sont éberlués et se regardent cherchant que faire.
Le chef de la garnison s'exécute alors et donne l'ordre à ses hommes d'obéir au roi.
C'est alors qu'en prenant leur courage de main et à grands coups de couteau, ils arrivent à extirper, non sans mal, les deux cœurs sur les hommes encore vivants.
Pâle comme la mort, un serviteur apporte alors au roi un plateau sur lequel palpitent encore les deux cœurs tout chauds.
Dom Pedro les prend dans ses mains et les écrase, les comprime comme s'il voulait leur enlever le peu de vie qu'il leur reste encore.
L'image est macabre, le sang gicle dans tous les sens et asperge ceux qui sont assis à côté du roi.
Celui-ci se lève et va à la fenêtre. Il jette les cœurs sur l'esplanade et donne l'ordre de brûler les deux cœurs et les corps sans vie des deux conseillers assassins.
On s'exécute et on jette alors les cendres dans le Tage.
Dom Pedro venait de venger sa bien-aimée.
Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là.
Un soir de l'année 1360, Dom Pedro est à Castagnède, en présence d'une partie de sa cour et du clergé, et notamment en présence de l'évêque de Guarda, qui jadis l'a uni par le mariage à Inès. Il jure sur la Bible que ce que Dieu a uni, nul ne peut défaire.
Et c'est à ce moment précis que commence la légende de Pedro et Inès.
On dit qu'un jour d'avril de l'année 1361, des fossoyeurs ont ouvert le cercueil d'Inès et que les sœurs du couvent de Santa Clara veillaient depuis sa mort.
Son corps était déjà entré en décomposition, mais ça ne les a pas empêchés de faire une macabre toilette et d'envelopper le cadavre dans un manteau royal.
Une fois nettoyé et habillé, on installe le cadavre sur un trône dans le cœur de l'église.
La tête est ajustée du mieux possible sur ce corps inerte. Puis un voile recouvre la tête. Il laisse entrevoir les orbites vides où jadis brillaient les beaux yeux verts d'Inès.
Et pour finir cette mise en scène macabre, on place une couronne sur la tête de la reine morte.
La scène est tellement lugubre qu'on dirait une scène du jugement dernier.
Mais c'est la volonté du roi, et on ne peut s'y opposer.
Celui-ci rentre alors dans l'église, suivi de toute sa cour, les infantes, les seigneurs, les nobles et les membres du clergé.
Il se dirige vers l'autel où sont installés deux trônes, le sien et celui de la reine morte.
Puis, tendant les deux bras vers Inès et se tournant vers l'assistance, il crie
« Voici votre reine, la reine du Portugal !»
Alors, il prend place sur le trône et attend les hommages de sa cour. Et c'est là que commence un bien étrange ballet.
Un à un, en file indienne, comme pour recevoir l'hostie, les dames, les chevaliers, les nobles et les religieux s'agenouillent devant le cadavre de la reine et baisent sa main puante et décomposée.
Dans un silence de mort et à la seule lueur des torches, la scène est des plus surréalistes, à la limite du fantasmagorique.
Mais l'ironie du sort, c'est que cette reine, qui, de son vivant, était ignorée et méprisée de tous, tenait là une belle vengeance.
Elle tenait maintenant à ses pieds toutes les dames et les gentilshommes qui n'avaient d'autre choix que de faire amende honorable.
Elle qui n'aurait dû naître qu'une simple maîtresse de roi.
Elle qui a su inspirer une telle passion à Pedro, son bien-aimé, venait grâce à ce destin terrible de passer à la postérité.
Le soir du couronnement d'Inès, tout ce beau monde prend alors le chemin d'Alcobas.
Tout au long du parcours, les gens des villes et des villages traversés devaient tenir des torches au passage du cortège funèbre.
Mais les uns baissaient la tête, d'autres pleuraient.
Le cercueil d'Inès était quant à lui porté par deux chevaux recouverts d'un habit noir.
Derrière le cercueil suivaient les évêques, la noblesse portugaise, les infantes et plus loin, tout seul le roi.
Et du peuple monte un étrange brouhaha fait de prières et de pleurs.
Le convoi arrive à Alcobas, tard dans la nuit, et est accueilli par un terrible orage.
La nuit est traversée par de violents éclairs, comme si tous les éléments voulaient eux aussi être de la partie.
Dans le monastère d'Alcobas, Don Pedro avait, au préalable, fait construire deux tombeaux qu'il avait fait installer dans le transept.
Un pour lui et un pour Inès.
Une fois le cercueil installé dans le transept de l'église, il fait sortir tout le monde et reste seul avec Inès pour se recueillir le reste de la nuit.
Au petit matin, l'évêque le retrouve prostré sur le cercueil de la pauvre Inès.
Dans la matinée, après la messe, la reine est mise au tombeau.
Puis les moines font glisser sur le cercueil le lourd couvercle de pierre qui doit fermer la tombe.
Inès gît depuis ce temps-là dans un superbe tombeau où des artistes sculpteurs ont ciselé l'image d'Inès morte et couronnée.
Et c'est là que se termine l'histoire d'Inès, la reine morte.
Celle de Don Pedro continue encore quelques années. Il sera surnommé le Juste, car il était bon pour le peuple portugais et a fait du Portugal un pays prospère.
Il meurt en 1367, succédé dans son règne par son fils Fernando I, issu de son premier mariage avec la reine Constance.
Mais que pourrait-on dire de plus sur cette belle histoire d'amour ?
Eh bien, 25 ans plus tard, un défenseur des lois qu'on appellerait de nos jours un avocat, un homme célèbre et reconnu de son état, un certain Juan Regres, jura par les grands dieux que jamais, au grand jamais, Pedro et Inès ne se sont mariés et que tout le monde avait menti. Du roi à l'évêque, en passant par les quelques témoins présents.
Une espèce d'affreux négationniste, quoi. Mais vous savez bien, l'histoire est souvent remplie de ces doutes qui contredisent certains faits.
Maintenant, le récit des amours de Pedro et Inès est-il vrai ?
À la limite, on s'en fout, l'histoire est trop belle pour la changer.
Et l'obspoché que vous vous rappelez ? Vous savez, le troisième conseiller du roi, Don Afonso, qui a participé au meurtre d'Inès et qui a réussi à s'échapper, qu'est-il devenu ?
Eh bien, il a vécu longtemps, sans doute avec quel remords, tout du moins on l'espère.
Après la mort de Don Pedro, il est revenu au Portugal car le roi de son lit de mort lui avait pardonné.
Mais l'homme, cet affreux Pacheco, était un indécrottable empêcheur de régner en rond.
L'histoire du Portugal raconte qu'il a trempé dans d'autres affaires malveillantes.
En effet, il a fait partie des conjurés contre Dom Fernando, le roi du Portugal, et sa femme adultère, Leonor Teles.
Mais dans cette histoire, il a eu moins de chance car il a été mis à mort en même temps que ses compagnons d'infortune.
Bien fait pour lui. Et il avait oublié que dans ce dernier complot, il n'a pas eu affaire à une femme douce comme l'était Inès, non ?
Dans cette affaire, il a été confronté à une femme sans scrupules, façon Lucrèce Borgia.
Eh oui, on ne gagne pas tous les coups.
Maintenant, lorsque vous irez visiter le magnifique monastère d'Alcobaça, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, passez un peu de temps à l'intérieur pour observer les deux tombeaux.
Vous verrez d'un autre œil les lieux et vous penserez à ces amants tragiques qui finalement n'étaient que deux gosses qui s'aimaient et qui ne demandaient rien à personne.
Hélas, d'autres en ont décidé autrement.
Já deixei. Billy Gott fehl ich sehen. Sehr! Zu ihr mit mir sind ich vor der Stauere schegade. De Lisboa para a Índia vou agora da balada. Mas em frente a Sesimbra algum cruzais francês. Dois aqui no pão de lixo com o barco feito em três. E por dentro e por lá o rei, que grande volta que eu dei. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, ai meu bem, como vai, meu bem azul. Oh, meu amor, é terra também. Oh, bonitinha, que é das penas, que é das marras. Sendo nós como uma sardinha,
vem naquela alegria enorme.
Ei!
Os mais ou menos com fora.
Sim! Vai para as maravilhas, vai para as maravilhas. Que eu vejo da minha barca branca, azul e amarela. A lua dormia ali com o sol é tal de amor. Que as montanhas estavam brancas e pariam prata e ouro. Cortes tudo o coração, faltas quantas ou que não.
Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo.
Mais cuidado no bailar. Que andamos tão baralhados.
Hey!
Nunca vi espadonhos tão soltos e atrevidos. Que nos tomam roupa pica com o bafo dos seus dormidos. E todo o seu manedo do mal para arrasar. Também tremiam as caras por não ter no lugar. E ainda por cima a chover, vejam lá o meu azar.
Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo.
Rapazinho, a cantar ao desafio.
Sim! Batemos os malabares sem pegar a guerra fria. Vamos ter grandes armadas, nunca ninguém vencer. Mas ao ver o cu do Moro, faz todos os grandes fortes. Tem que ficar no cheio de todo tipo de amor. Cigarro da sem parar, quem que se vai voar?
Ai, tão lindo, ai, tão lindo. Ai, tão lindo.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Rencontre lusophone, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Jeff, merci Manu. Bon week-end à vous tous. On revient évidemment samedi prochain à la même heure. N'oubliez pas la page Facebook de cette émission. Vous la trouverez sous le nom de Rencontre lusophone au pluriel. Et je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Résonance. Je vous embrasse.
Au revoir tout le monde. J'ai été très content d'avoir raconté cette histoire.
Ouais, la prochaine fois tu nous en réserves une autre.
Oui.
Que toi tu nous réserves la surprise. Aussi sanglante.
Aussi sanglante, ah bah oui.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute, que vous nous écoutiez de France ou d'ailleurs. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. D'ici là, je vous embrasse et je laisse la parole à Jeff.
Et oui, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. On revient évidemment samedi prochain à la même heure, pour d'autres thèmes évidemment. Pour ceux qui souhaitent réécouter l'émission de ce soir, il y aura évidemment un rattrapage demain dimanche à 20h30. N'oubliez pas le podcast de cette émission qui sera dans quelques minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page radio qui porte le nom de notre émission Rencontre lusophone au pluriel. Bon week-end à tous, sortez couverts et masqués. À tes mâches.
Se ao longe achar que nunca vai servir, Que ga još kuz do mi je prosima Soponju krem Naš mašaš da pes funciona Recordo O corpo do cordel despertador E ponho aquilo Que eu tiver de pôr A cortisona acaba por bater E as manchas a pegar Eu vou